les podcasts de Radio Vatican.
L'Afghanistan peut-il chasser ses vieux démons? La question est de plus en plus urgente alors que le pays n'en finit plus d'être le théâtre de violences. Dernier exemple en date, l'attaque spectaculaire de l'hôpital militaire de Kaboul le 8 mars 2017 qui a fait 31 morts et des dizaines de blessés. Une attaque revendiquée par l'État islamique. Car en plus de la menace talibane qui déstabilise le pays depuis des années, le mouvement djihadiste international a officiellement émergé dans le pays en 2015 et semble gagner du terrain, montrant ainsi son expansion bien au-delà de sa sphère moyenne-orientale. Comment État islamique et talibans ont profité de la faiblesse du pouvoir central afghan pour se renforcer? Quel rôle peut jouer la communauté internationale pour stabiliser le pays? Autant de questions qu'Olivier Bonnel a posées à Didier Chaudet, spécialiste de l'Asie centrale et du Sud-Est. Il dirige le CAP, le centre d'analyse de la politique étrangère.
Le problème pour l'État afghan, que ce soit face aux talibans ou face à l'État islamique, c'est le problème de la mauvaise gouvernance, c'est le problème de la corruption. Ça peut sembler que des mots vus de loin, mais dans la vie quotidienne sur place, ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens de payer les bâtisses, si vous n'avez pas les contacts pour vous protéger, vous êtes sans défense et quelque part la police ou l'armée peut vite devenir un danger aussi important pour vous et pour les vôtres que la rébellion. Dans un pays comme l'Afghanistan, où les liens familiaux et traditionnels sont quand même très forts, peut amener à des situations où on se sent en guerre de fait contre le gouvernement. Parce que quand le gouvernement laisse des gens obtenir des postes dans différentes provinces et se comporter un petit peu comme des petits satrapes locaux, ça crée des haines assez importantes. On imagine souvent la guerre en Afghanistan en noir et blanc, avec d'un côté les troupes gouvernementales, d'un autre côté les talibans. On oublie que parfois, dans des accrochages il y a quelques années entre troupes de l'OTAN et talibans, vous aviez parfois des gens qui localement avaient des griefs face au pouvoir local ou face à des soldats de l'OTAN ou des soldats américains et qui se joignaient aux rebelles, pas parce qu'ils soutenaient les rebelles, pas parce qu'ils les appréciaient, parce qu'ils avaient envie de prendre une sorte de revanche, de faire le coup de feu contre des forces qu'ils considèrent également comme envahissantes. Donc un certain nombre d'Afghans vont bien sûr rejeter les talibans, mais ils ne vont pas forcément considérer les Américains ou l'armée légale comme étant un moindre mal. Et c'est ça tout le cœur du problème aujourd'hui.
L'État islamique a profité du rapport de force entre le pouvoir à Kaboul et les talibans, c'est-à-dire un pouvoir affaibli. C'est la raison de l'implantation du mouvement djihadiste dans le pays.
Elle a profité de l'affaiblissement de l'État afghan, du fait que cette structure voulait se montrer véritablement internationale, même si son champ de bataille privilégié, ce sont bien sûr la Syrie et l'Irak. Et ils ont profité aussi d'une certaine faiblesse en interne des talibans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été confirmé que le Mollah Omar était bien mort, cette nouvelle génération a été radicalisée parce que les forces qui les ont entraînées au départ, c'était tout de même d'abord des djihadistes et d'Al-Qaïda. Daesh a pu profiter d'autre chose, non seulement de cette tension entre talibans plus jeunes et talibans un peu plus âgés, mais surtout du fait qu'une partie de ces talibans devenus membres de l'État pseudo-islamique sont des talibans pakistanais qui ont été vaincus sur le territoire pakistanais. Ils se sont donc repliés en territoire afghan. L'Afghanistan n'a pas pu ou n'a pas voulu les arrêter, les combattre quand ils ont passé la frontière. Ils ont rejoint les forces les plus idéologiquement dures du côté des talibans afghans et les autres djihadistes étrangers présents sur place qui veulent aller au-delà de l'Afghanistan. La grande logique du Mollah Omar et de son successeur direct, c'était vraiment de dire à l'ensemble de la région, nous ne nous battons que pour l'Afghanistan, nous sommes des islamo-nationalistes afghans de fait et nous n'allons pas faire les guerres plus tard aux chiites d'Iran ou à l'Asie centrale post-soviétique. Il y avait toute une partie quand même de ceux qui combattent en Afghanistan qui ne voient pas les choses comme ça, qui ont une autre approche idéologique. Et ce mix de forces idéologiquement dures se sont coalisées ensemble pour devenir ce qu'on appelle l'État islamique en Afghanistan.
Est-ce que l'internationalisme du djihadisme de l'État islamique peut aller à l'encontre, à terme, du combat sanctuarisé des talibans afghans, qui est un peu le combat historique des talibans afghans?
Ce serait la chance de l'État afghan, de l'environnement régional et des Américains si tout le monde acceptait d'avoir les mêmes intérêts et était capable de faire des compromis entre eux. Le problème, c'est que non seulement les forces rebelles, talibans, Daesh et autres, sont divisées, mais les forces qui sont de l'autre côté sont également divisées. Vous avez des tensions extrêmement fortes à l'intérieur du gouvernement afghan. gouvernement afghan est une union nationale aujourd'hui. Et c'est une union nationale qui s'est faite en 2014 sur fond de trucage des élections présidentielles où celui qui était le numéro 1 au premier tour de loin est devenu le numéro 2 au deuxième tour. Et ça, pour des choses que tout le monde vous dira sur place, c'est qu'un certain nombre de forces à Kaboul n'auraient jamais accepté d'avoir un non-pachtoun, entre guillemets, comme Abdullah Abdullah considéré comme tadjik, même si en fait sa famille est tadjik et pachtoun, mais de fait, dans la vision ethnique, politique en Afghanistan, il est vu comme tadjik. Donc un certain nombre de forces, notamment autour du président Karzai, ne voulaient pas voir un non-pachtoun arriver au pouvoir, et on a évité de très très peu une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile entre forces tadjik et forces pachtoun, ayant été présents sur place en 2014 pendant ce type de tension. Dans les quartiers tadjiks de Kaboul, on savait très bien dans les alentours du 14 juillet 2014 qu'on était à deux doigts d'une attaque du palais présidentiel par les forces tadjiks. Donc, de fait, vous aviez une situation où les gens à l'intérieur de Kaboul, qui sont censés tous se battre contre les talibans, sont prêts à être déchirés pour le peu de pouvoir qu'ils pourraient avoir à partir de la capitale. Au-delà de ça, vous avez d'autres divisions à l'extérieur, entre grandes puissances. En gros, vous avez deux axes. L'axe États-Unis-Inde, qui soutient un certain nombre de personnes à Kaboul et qui a dit vouloir une paix de négociation avec les talibans, mais qui, de fait, aujourd'hui, la refuse. Et la refuse pourquoi ? Parce qu'en face d'eux, ils ont cet autre axe. Russie, Chine, Pakistan, Iran. Donc l'environnement régional afghan au sens propre, qui a globalement accepté que les talibans faisaient partie du paysage politique afghan, qu'on ne pourrait pas les liquider que par les armes, et que donc il fallait accepter de négocier avec eux. Est-ce qu'on les aime ? Non. Est-ce qu'on peut les vaincre ? Non plus. Donc discutons avec eux parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et en fait, paradoxalement, ce second groupe ne s'est lancé dans la logique des négociations qu'à partir du moment où l'administration Obama a lancé le feu vert entre 2010 et 2011. Ce feu vert était lié à une logique qui correspond parfaitement aux intérêts pakistanais, iraniens, russes et chinois aujourd'hui, c'est-à-dire s'associer avec les talibans, faire la paix avec eux et pousser le gouvernement afghan à faire la paix avec eux dans une sorte de partage de pouvoir pour que toutes ces forces coalisées liquident Daesh et puissent gérer un peu plus efficacement la question du trafic de drogue qui a un énorme problème, notamment en Iran et en Russie. Mais aujourd'hui, vous avez cette opposition. Les Américains et les Indiens, très clairement, ont leur propre agenda. Pour les Américains, accepter que les Chinois, notamment, réussissent sans tirer un coup de feu, ce que les Américains n'ont pas été capables de faire pendant la plus longue guerre de leur histoire, c'est difficile à accepter. Et du côté des Indiens, vous êtes dans une sorte de guerre froide entre l'Inde et le Pakistan qui n'a pas faibli, quoi qu'on en dise. C'est très flagrant en Afghanistan même. Les Indiens et les Pakistanais s'opposent. Et les Indiens ne veulent à aucun prix voir les Pakistanais emporter une quelconque influence dans l'Afghanistan pacifié. Donc, certes, les rebelles djihadistes fondamentalistes se divisent entre eux, mais hélas, pour nous tous, les autres forces qui devraient les combattre sont encore plus divisées aujourd'hui.
Justement, oui, vous l'avez un peu évoqué, mais sur le rôle de la communauté internationale, est-ce qu'elle peut aider Kaboul face à cette menace multiple ? On a vu qu'il y a quelques jours, l'état-major américain plaidait pour un redéploiement des troupes en Afghanistan.
Ah, mais là, on est dans une impasse totale parce que les Américains n'ont pas l'air d'apprendre de leurs échecs passés. C'est-à-dire que quand on écoute le général Nicholson, quand même le 12e chef des forces armées américaines en Afghanistan, quand on arrive au 12e chef pour une force de libération ou d'occupation, il faut commencer à se poser des questions sur la capacité de l'armée à réussir à vaincre seule sur place. De fait, on continue à parler du côté américain d'une solution militaire. Mais quand vous écoutez le général Nicholson en détail, vous êtes assez frappé d'un discours en fait qui rappelle le discours de Petraeus avant. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise toujours ce petit langage spécialisé pour donner l'impression qu'on maîtrise la situation, alors qu'en fait, on la maîtrise pas du tout. On parle de combattre, de tenir et de reconstruire. Le seul problème, c'est qu'on ne réussit toujours pas à reconstruire à cause de la situation de l'État afghan. Et surtout, même si on envoie quelques milliers de soldats en plus sur place, même pour la formation, Qu'est-ce que ça changera au fait qu'aujourd'hui, par exemple, la corruption est telle en Afghanistan que vous avez ce scandale de ce qu'on appelle les soldats fantômes, c'est-à-dire des soldats de l'armée afghane qui existent sur le papier, mais qui n'existent pas en réalité. Dans une province comme le Helmand, c'est 40% des soldats qui, en fait, n'existaient pas. Est-ce qu'ils existent à nouveau? Je n'en suis pas sûr. On s'est rendu compte du scandale il y a peu, on en parle depuis un an à peu près. Est-ce que forcément les choses ont été réglées depuis? Je n'en ai pas l'impression, en bonne partie, parce qu'un certain nombre de personnes qui profitent du système sont au plus haut niveau, notamment à l'Assemblée nationale afghane. Donc comment nettoyer une situation si au mieux vous gérez les corrompus au niveau local et que les grands patrons de cette grande arnaque internationale, parce que l'armée afghane, c'est la communauté internationale qui la paye, les grands patrons de cette magnifique arnaque sont toujours dans les rouages du pouvoir afghan. Vous avez ce souci du côté américain, donc de ne pas voir les choses véritablement en face et de masquer cette défaite par un discours militaire pseudo-spécialisé. Et du côté européen, ce qu'on peut regretter, notamment du côté français, nous avons quand même perdu 89 soldats sur place. Je ne parle pas du nombre de blessés, de personnes qui sont marquées à vie, etc. Nous n'avons eu strictement, en tant qu'Européens, aucune influence sur la gestion de la guerre en Afghanistan. Nous avons été des supplétifs. Nous avons envoyé de nos soldats se faire tuer sur place pour une guerre qui aurait dû être la nôtre, parce que 95% de l'héroïne que vous avez trouvée à Paris ou à Rome vient d'Afghanistan. Donc c'est quand même un véritable problème pour nous. C'est un problème qu'on partage avec les Russes et les Iraniens. Mais on ne s'est pas véritablement impliqué sur ce dossier-là. On peut espérer qu'un prochain président français oserait faire l'impensable, c'est-à-dire prendre les citoyens français au sérieux et prendre l'armée française au sérieux, et se repencher sur le dossier afghan avec nos partenaires européens. Cela nous concerne également. Maintenant, la grande question va être de savoir, est-ce qu'on continue à suivre toujours les Américains ou est-ce qu'on rentre dans cette vision un peu plus intelligente où on parlera avec tout le monde? Parce que les Russes et les Chinois ont aussi des idées. Et sur ce type de sujet, on peut s'entendre avec les Russes et les Chinois. On peut avoir des problèmes avec les Russes sur l'Ukraine, sur la Géorgie, c'est une chose. Mais sur d'autres grands dossiers internationaux, comme sur l'Afghanistan, il y a la possibilité d'une entente. Si on veut bien faire l'effort, si le Quai d'Orsay décide de ne pas forcément attendre les ordres de l'ambassade américaine, si on arrive à cette politique un peu indépendante, on peut vraiment faire des choses. Parce que la France, l'Allemagne, l'Union européenne en général, ça a un poids en Afghanistan, ça a un poids en Asie du Sud. Mes déplacements à Kaboul et à Islamabad n'ont qu'un point commun. On parle de deux pays où les élites se détestent cordialement ou s'ignorent cordialement. Le seul point en commun que j'ai pu trouver, c'est le désir de plus d'Europe, pas de soldats, mais d'une implication d'un certain intérêt. Ce que vous disent les contacts qu'on peut se faire en Afghanistan avec les temps, avec un certain cynisme, c'est qu'hélas, les talibans ne sont pas aussi violents que Daesh. Quand les talibans font 20 morts, les gens de l'État pseudo-islamique font un massacre de 100 personnes, donc on ne peut pas lutter. La compétition est trop rude. C'est cynique, mais c'est comme ça que les choses sont vécues en Afghanistan. Il faudrait changer un peu la donne, mais aussi, si on se réinvestit en Afghanistan, être un peu plus sérieux dans notre rapport avec l'État afghan. Il faut un vrai nettoyage de ce côté-là. Quand on paye, la communauté internationale paye pour le gouvernement à Kaboul, il faut être capable de taper du poing sur la table. On sait qui sont les corrompus. Nos ambassades, quand elles font leur travail, le savent. Il y a des listes qui peuvent être faites. Il peut y avoir une discussion un peu rude, un peu directe qui peut être faite avec le gouvernement afghan. Mais on viendrait en aide de cette façon-là au nombre autrement plus important de jeunes diplomates, policiers, membres des services du renseignement afghan qui veulent nettoyer leur pays. Un certain nombre d'entre eux sont revenus du Canada, des États-Unis, de France, d'Angleterre pour essayer de reconstruire leur pays. Ils sont aujourd'hui dégoûtés. Un certain nombre veulent partir. S'ils avaient l'impression d'avoir un vrai soutien venant d'Europe, peut-être que cette force pour la stabilisation de l'Afghanistan pourrait reprendre du poids de la bête. Pour l'instant, elle est assez épuisée et assez démoralisée. Et on la comprend.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.